Un fourgon transportant des bouteilles de gaz a foncé sur les bureaux du lobby chrétien australien à Canberra la nuit dernière. Le directeur du lobby, Lyle Shelton, a tweeté des photos du fourgon brûlé enfoncé dans l'édifice. Il a dit à ABC que personne n'avait été blessé et qu'il était clair que l'acte était délibéré.
We have received a number of death threats and threats of violence over the course of this year, which we have reported to police. I'm very concerned that someone out there doesn't like what we're saying in the public square, doesn't like the freedom that we as Australians enjoy, and this is an attack on free speech in Australia, which I'm deeply shocked about and never thought I would see in my lifetime.
Lyle Shelton du lobby chrétien d'Australie. La police indonésienne dit avoir déjoué un complot d'attentats terroristes contre des touristes à Bali qui aurait été exécuté durant la période des fêtes. C'est la dernière d'une série de potentielles attaques liées au groupe État islamique que la police dit avoir stoppé. Le gouvernement australien a renouvelé son avis aux voyageurs, avertissant que la menace terroriste demeure élevée en Indonésie. Il recommande aux Australiens qui y voyagent d'être prudents, disant que les groupes de touristes pourraient être visés. L'expert en terrorisme Greg Barton va dans le même sens que le gouvernement.
We know that just in the last couple of weeks there was a planned suicide attack in Jakarta in front of the presidential palace with tourists watching the changing of guard. We think there may be attempts to launch an attack in Bali, but we don't know the location. Of course, it could just be Jakarta or another major city. Police are speaking to 15 people they've taken into custody. Three were blown up yesterday in a gunfight with police. So that gives you a sense of the intensity of the ramp up to the Christmas New Year's period, and it'll carry on beyond Christmas through New Year's.
L'expert en terrorisme Greg Barton. Une rumeur court comme quoi le député conservateur Cory Bernardi se préparait à se séparer du Parti libéral. Le journal The Australian rapporte que le sénateur d'Australie du Sud et la magnat des mines Gina Reinhart auraient rencontré des membres de l'équipe du président élu américain Donald Trump, dont sa manager de campagne Kellyanne Conway et l'ex-maire de New York Rudy Giuliani. Mais le sénateur Bernardi nie les allégations et dit qu'il ne s'agit que de rumeurs. Le gouvernement du Victoria portera en appel le jugement de la Cour disant qu'il a agi illégalement en transférant un groupe de détenus mineurs dans une prison à sécurité maximale pour adultes. Les 15 jeunes ont été transférés à la prison de Barwon le mois dernier après des émeutes ayant endommagé les centres de détention de Parkville et Malmesbury. La Cour suprême du Victoria a conclu que les droits des jeunes avaient été bafoués. On écoute le juge Gregory Cardy.
Every child has the right without discrimination to such protection as is in his or her best interest and is needed by him or her by reason of being a child. All persons deprived of liberty must be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of a human person.
La Cour a donné au gouvernement du Victoria jusqu'à la mi-année 2017 pour relocaliser les jeunes. L'appel du gouvernement sera entendu la semaine prochaine. Le prix des voitures pourrait augmenter puisque le gouvernement australien envisage d'instaurer une norme relative aux combustibles propres. Peter Corey de l'organisation automobile NRMA dit que oui, ce plan pourrait réduire les émissions toxiques, mais que la situation est plus complexe que ça.
We are way behind in terms of the quality of our fuel to overseas standards. Our refineries here in Australia are about 40 or 50 years old. So it's not just as simple as saying if we upgrade the standards to Euro 6.
Les constructeurs automobiles Holden, BMW et Hyundai sont pour cette nouvelle norme. Mais le Institute of Petroleum, qui représente les compagnies de combustible, est inquiet du plan qui menace les raffineries de pétrole. Si vous êtes propriétaire, vous le savez, acheter une maison dans certaines villes australiennes coûte très cher. En moyenne, ça prend plus de 4 ans à un couple australien pour épargner assez d'argent pour faire un dépôt sur leur première maison. Selon un rapport de Bankwest, c'est 2 mois de plus cette année comparé à l'année dernière. En Nouvelle-Galles du Sud, les acheteurs doivent attendre près de 6 ans et épargner 138 000 $. Et à Sydney, on s'y attendait, c'est plus de 8 ans et il faut épargner 214 000 $. De plus en plus d'Australiens choisissent de prendre leurs vacances au pays plutôt que d'aller à l'étranger. Les dépenses des Australiens en vacances au pays ont atteint leur plus haut niveau l'an dernier, 60 milliards de dollars. La directrice générale du Forum sur le tourisme et le transport, Maggie Osman, est bien heureuse de cette nouvelle.
This is great news. Australians have clearly fallen back in love with Australia, and it tells you what a great job our state-based destination organisations are doing, because we've seen a 5% increase across the board in people choosing to holiday at home.
Maggie Osman du Forum sur le tourisme et le transport. Passons à l'international maintenant. Les autorités allemandes s'activent pour retrouver l'homme qui était au volant du camion qui a foncé sur la foule d'un marché Noël à Berlin, tuant au moins 12 personnes sur son passage et faisant 48 blessés. Une récompense de 100 000 euros est offerte pour retrouver un homme qui serait lié à l'attaque. Pascal Thibault explique qui est cet homme.
1m78, 75 kilos, cheveux noirs, yeux marrons, pourrait être dangereux et armé. Telles sont les informations que l'on peut lire sur l'avis de recherche de l'Office criminel fédéral. On y voit des photos du Tunisien Anis Amri, 24 ans. L'homme est recherché en Allemagne et plus largement en Europe. Le suspect est arrivé en 2015 en Allemagne et sa demande d'asile a été rejetée cet été. Mais il n'a pas pu être expulsé dans son pays, la Tunisie, bloquant la procédure. Anis Amri était connu de la police allemande pour ses liens avec la mouvance islamiste et faisait partie d'une liste de 250 personnes jugées dangereuses et susceptibles de commettre des actes violents. La police berlinoise l'a surveillée de mars à septembre dernier. Les enquêteurs ont découvert un document d'identité à son nom dans la cabine du camion ayant servi à perpétrer l'attentat lundi soir. Anis Amri l'a-t-il perdu dans la bagarre qu'il a opposée au chauffeur polonais du véhicule? Voulait-il volontairement laisser une trace? S'agit-il d'un piège tendu aux enquêteurs? Autant de questions qui restent ouvertes.
Pascal Thibault pour Radio France Internationale. En Syrie, les derniers convois de civils et de rebelles se préparent à quitter Alep, laissant la voie libre à l'armée pour prendre le contrôle de la ville après 4 ans de guerre. Plus de 25 000 personnes auraient déjà quitté la ville. Les précisions de Paul Halifet.
Un responsable de l'ONU, cité par les agences de presse, a annoncé ce soir la poursuite de l'opération d'évacuation des quartiers est d'Alep et n'était pas en mesure de confirmer le départ des derniers rebelles. Mais des sources proches du régime ont assuré que les derniers insurgés, accompagnés des membres de leur famille, ont effectivement quitté la ville à bord de 20 bus mercredi en fin d'après-midi. Dès leur départ, les secouristes du Croissant Rouge et les soldats syriens ont avancé vers l'ancien fief des insurgés. Le drapeau syrien a été hissé sur certains bâtiments publics ou ce qu'il en reste. La zone de 3 km² restera interdite aux habitants de la ville jusqu'à la fin du ratissage et des opérations de déminage menées avec l'aide d'artificiers de l'armée russe. Mardi, l'armée syrienne avait demandé par haut-parleur aux derniers rebelles et civils qui le souhaitent de quitter les quartiers est avant ce qu'elle a appelé le nettoyage de la ville. Les partisans du régime avaient déjà célébré la reconquête d'Alep avant la fin de l'évacuation des rebelles. Mardi, le drapeau national avait été hissé sur la célèbre place Abdallah el-Jabiri et un immense arbre de Noël avait été illuminé dans le quartier de Aziziya. Des convois de voitures ont sillonné les rues de la ville, divisés pendant 4 ans et réunifiés à l'issue d'une bataille qui a fait plus de 21 000 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Paul Halifet pour RFI. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné le meurtre d'un casque bleu sud-africain en République démocratique du Congo. Il est mort dans un échange de coups de feu avec des combattants qu'on soupçonne être de la milice Maï-Maï dans l'est du pays. La tension est palpable en RDC depuis l'échéance du mandat du président Joseph Kabila au début de la semaine. Des douzaines de personnes ont été tuées et blessées. À Kinshasa, Sonia Rollet.
D'abord, pour le gouvernement, il n'y a eu que 9 morts, et à Kinshasa, dont un policier CPR qui n'aurait donc pas été tué par les forces de sécurité, mais par des vigiles au cours de pillage. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme donne lui au moins 19 morts, tués pour l'essentiel par balles, et 45 blessés sur tout le pays, ce qui agace le gouvernement. Dans son dernier communiqué, le ministre de la Communication, Lambert Mende, parle de campagne de dénigrement d'informations livrées sans identité et sans preuve. L'ONU, de son côté, dénonce le manque de coopération et des restrictions, notamment dans l'accès aux cachots. 9 morts pour Kinshasa, c'est ce que donne aussi la police nationale, dont un policier lynché par la population et 6 tués par des balles perdues dans les affrontements, 8 sous-commissariats de police pillés, 30 de bus du gouvernement vandalisés, entre autres. Dans le reste du pays, la police donne 8 morts, dont 4 par balles perdues à Lumumbashi et des dégâts matériels importants, 3 à Matadi et 3 à Boma lors de pillages, 22 morts en tout. Pour ce qui est des arrestations, 275 sur tout le pays, c'est ce que révèle le porte-parole de la police. Et sur ces 275, 116 seulement ont été transférés au parquet, les autres sont toujours sous interrogatoire. Pour finir, Human Rights Watch a revu son bilan à la hausse sur tout le pays. 29 morts, tués pour l'essentiel par les forces de sécurité, selon l'Organisation américaine de défense des droits de l'homme.
Sonia Rollet pour RFI. On aura plus d'actualités africaines plus tard dans le programme avec Frédéric Sudo. Un mot de sport pour terminer le journal. La dotation de l'Open d'Australie vient d'augmenter considérablement, de 14%. Elle est maintenant de 50 millions de dollars, un record. Les gagnants de la compétition en simple, hommes et femmes, remporteront chacun 3,7 millions de dollars et les perdants 1,85 millions. Les joueurs qui se feront éliminer au premier tour repartiront, eux, avec 50 000 $. Et on vous rappelle que l'Open d'Australie, ça a lieu à Melbourne à partir du 16 janvier. On suivra l'événement pour vous grâce à Christophe Mallet qui sera sur place. Plus de sport dans quelques instants avec Bertrand, juste après la météo. Ça se réchauffe tranquillement au pays avant un week-end qui s'annonce très chaud pour le sud, donc dans la région de Melbourne. À Perth aujourd'hui, 29 degrés. Adélaïde, 31. Melbourne, 22. Hobart, 24. Canberra, 26 degrés. Wollongong et Newcastle, 22. Sydney, 24. Brisbane, 28. Cairns, 33. Et à Darwin, 30 degrés. On rappelle des grands titres de ce jeudi 22 décembre. Les bureaux du lobby chrétien d'Australie à Canberra ont été attaqués la nuit dernière. La police indonésienne dit avoir déjoué un complot d'attentats terroristes contre des touristes à Bali. Et en Allemagne, les autorités offrent 100 000 euros pour retrouver un homme lié à l'attaque d'un marché de Noël à Berlin.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench